Radio Kapi.
Le journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire ce matin, d'abord ce drame à Bukavu au sud Kivu. Un immeuble d'une école privée s'est écroulé hier jeudi. Dans la mi-journée, les témoins sur place dans la commune de Bagira parlaient d'une dizaine de morts. Le bourgmestre évoque la mauvaise contrition et appelle au secours. Au nord Kivu, environ 600 000 personnes se sont déplacées à la suite des affrontements entre des belligérants armés dans plusieurs entités de la province. Le CICR parle d'une aggravation des besoins humanitaires, aussi bien pour les déplacés que pour les communautés d'accueil. L'invité de ce journal est le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Tommy Ntambwe Ushindi parle des projets réalisés depuis sa nomination à la tête du PDDRCS il y a cela 2 années. Mesdames, Messieurs, bonjour. Drame à Bukavu, au sud Kivu, je venais de le dire. Un immeuble d'une école privée s'est écroulé, faisant une dizaine de morts, selon les témoins. L'incident s'est produit hier jeudi à la mi-journée dans la commune de Bagira. Les témoins affirment que les responsables étaient dans une réunion et ont été surpris par l'affaissement de l'immeuble en étage dans lequel il s'est trouvé. Le bourgmestre de la commune de Bagira appelle au secours. Patience Bengea a été joint par Emmanuel et la Mejou Akabedi.
Oui, c'est vrai. Je venais d'envoyer l'ambulance là-bas. On a déjà 4 corps, mais nous sommes en difficulté, vraiment en difficulté. Je manque une grue, puisqu'on m'a dit qu'il y a des gens qui sont coincés sous le portail qui pèse des tonnes. Et les personnes ne peuvent pas soulever ça. Il faut une grue absolument. Il y a une école privée là-bas. En fait, à l'origine, c'est probablement la mauvaise construction.
Donc, ça s'est écroulé. Alors, il y avait le préfet et d'autres personnes dedans.
Le préfet et d'autres personnes qu'on ne connaît pas, ils sont là-bas.
Donc, on a déjà sorti 4 corps.
4 corps. Il y a une personne qu'on a descendue à l'hôpital. Mais on continue des recherches. Mais avec la main, ça ne va rien faire. Il faut une grue absolument.
Autre drame, toujours au sud Kivu, 3 nouveaux cas d'incendie de maisons ont été enregistrés dans la ville de Bukavu dans l'espace de quelques heures. Plusieurs biens sont partis en fumée et d'autres maisons détruites pour tenter de limiter la propagation des flammes. Dans la plupart des cas, l'origine des feux reste inconnue. Des précisions avec Emmanuel et la Mejou Akabedi.
Mercredi soir, au quartier Panzi, en commune d'Ibanda, une dizaine de maisons ont pris feu. Environ 20 ménages sont maintenant sans abri. Ce sont les voisins et d'autres jeunes du quartier qui se sont activés pour limiter la propagation des flammes. Si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, aucun dispositif anti-incendie n'est intervenu. Dans la même nuit de mercredi à ce jeudi, une dizaine de maisons d'habitation et de maisons commerciales a été consumée dans le territoire de Kabaré, au village Tchindioma, à côté du marché de Moudaka. Tous les biens des maisons et des marchandises ont pris feu. C'est jeudi 10 août 2023 à la mi-journée sur la ville de Bukavu. Encore une dizaine de maisons sont incendiées dans la commune de Kadutu au niveau du marché Limanga. Alors que toutes les 3 communes urbaines de Bukavu venaient de recevoir chacune un véhicule anti-incendie, ces engins ne sont toujours pas opérationnels. La ville de Bukavu est victime de sa mauvaise politique d'urbanisation et comme conséquence, la promiscuité des maisons d'habitation. Emmanuel Lamejoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au nord Kivu, environ 600 000 personnes se sont déplacées à la suite des affrontements entre des belligérants armés dans plusieurs entités de cette province. Dans un communiqué rendu public hier jeudi, le CICR parle d'une aggravation des besoins humanitaires, aussi bien pour les déplacés que pour les communautés d'accueil. L'insécurité persistante rend difficile également l'acheminement de l'aide dans les zones les plus touchées par la violence. Le CICR rappelle les parties au conflit de s'acquitter de leurs obligations en vertu du droit international. Sifa Maguro pour plus de détails.
Dans ses communiqués, le CICR met en évidence la situation humanitaire dans le Grand Nord, notamment la région de Oicha. Plus de 80% des déplacés vivent dans des familles d'accueil. La population de cette région est prise en étau entre l'activisme des groupes armés locaux et en ricochet les attaques attribuées aux ADF, sans évoquer les conséquences des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les ADF. Le CICR dit avoir lancé fin juin 2023 2 projets de forage pour améliorer l'accès à l'eau potable ainsi que plusieurs bornes et fontaines pour alimenter les sites des déplacés et les quartiers surpeuplés. La situation est similaire dans les Rutshuru et Masisi, 2 greniers de la ville de Goma, indique le CICR. Des combats entre les mouvements rebelles M23 et des groupes armés armées ont entraîné un déplacement d'au moins 78 000 personnes seulement au mois de juin et juillet 2023. Les acteurs humanitaires font face à un manque de financement et d'accès, a déclaré Anne-Sylvie Linder, chef des sous-délégations CICR à Goma. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Plus de 109 000 personnes déplacées et familles d'accueil vulnérables d'Oicha bénéficient de plusieurs jeudis d'une assistance de l'ONG Caritas Butembo Beni avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Les bénéficiaires sont ceux des trois aires de santé de Tenambo, Mabasele et Pakanza. Cette assistance est constituée uniquement des vivres. Le point avec Gulen Kassassia.
La commune d'Oicha héberge une forte communauté de déplacés venus du territoire de Beni et de la province voisine de l'Ituri. Tous ont fui les attaques et massacres des rebelles des ADF dans leur milieu. Ces personnes ont tout perdu en quittant leur localité. C'est ce qu'explique François Kaputu, chargé de programme au sein de la Caritas Butembo Beni.
C'est une commune qui reçoit plusieurs déplacés dans le contexte de la crise ADF. Il s'agit de personnes également qui, depuis toute cette période de crise, les ADF n'ont pas vraiment la possibilité d'accéder à leur champ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas la possibilité de répondre vraiment à tous les besoins, mais les besoins sont réellement dans la communauté.
Ces déplacés ont reçu des céréales, des légumineuses, de l'huile végétale, mais aussi du sel de cuisine. Une assistance qui arrive à point nommé, comme l'explique Imelda Kavira Charonere, présidente du comité des déplacés de Oicha, qui évoque également d'autres besoins.
Nous avons fui la guerre, nous, déplacés et les autochtones, nous restons ici dans la cité sans rien faire. Mais aujourd'hui, c'est la fête dans la cité car chacun va bien manger, mais le besoin reste toujours là. Il y a plusieurs déplacés qui sont hors site. Ils ont du mal à trouver les frais des locations.
À noter que cette distribution de vivres qui a commencé ce jeudi va durer 10 jours. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent en Ituri. Une vingtaine de jeunes du mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha avec des bandeaux blancs sur la tête ont manifesté hier jeudi dans les différentes artères de Mambasa Centre. Dans leur mémorandum au vice-ministre en charge de la Défense déposé au bureau de l'administrateur du territoire, ces manifestants ont réitéré leur requête d'exiger le remplacement des militaires de la 31e brigade. Entre-temps, les activités économiques restent paralysées à Mambasa Centre. Omba Ona de la cellule de communication de Lucha à Mambasa a été joint par Martial Kizabiamungu.
Nous voulons les remplacements purs et simples de cette brigade. Et au cas où cette recommandation ici n'est pas prise en compte, nous sommes prêts à organiser des actions de grande envergure jusqu'à ce que cette brigade va quitter les milieux parce que on a décrété 3 jours sans activité. Donc aujourd'hui, c'était une marche accompagnée d'une journée sans activité. Et demain, même après-demain.
Notez par ailleurs que la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri se tiendra du lundi 14 au mercredi 16 août prochain ici à Kinshasa. Le Premier ministre Samalou Konde l'indique dans une correspondance adressée au président des deux chambres du Parlement à qui il demande de prendre des dispositions utiles pour le bon déroulement des travaux au Palais du Peuple. Et puis lancement officiel hier jeudi à Kalemi du centre de formation professionnelle d'une vingtaine d'ex-combattants ainsi que des membres des communautés locales. Ce centre de formation à menuiserie et ajustage est mis en place par les fonds pour les femmes congolaises. C'est dans le cadre du projet soutenir la participation des femmes à la prévention des conflits, à l'engagement communautaire et à la consolidation de la paix. L'organisation allemande IFA Zivik finance ce projet. Maria Moussafi, assistante au programme Fonds pour la femme congolaise, donne d'amples précisions ici à ce sujet. Elle est au micro de Paul Mounanga.
Nous avons 3 bénéficiaires dans la province du Tanganyika actuellement. Il s'agit de Afam Deko, Safeka ainsi que Wapandaji qui mettent en œuvre le projet de sensibilisation et de cohabitation pacifique et ils sont en train de sensibiliser les personnes combattantes à se démobiliser volontairement ainsi qu'à la cohabitation pacifique au sein de la communauté. C'est là dans les territoires de Kabalo, Nyunzu et Kalemi. Voilà pourquoi le FFC a pensé à créer un centre de formation des personnes ex-combattantes qui sont certifiées par le PDDRCS ainsi que les membres de la communauté. Dans ce centre, il y a 2 filières, la menuiserie ainsi que l'ajustage. Il y a jusque-là 40% des femmes qui vont apprendre. Notre objectif, c'est de faire atteindre au minimum 60% des femmes qui sont bénéficiaires de ces 2 types de formation. L'objectif, c'est de ramener la paix et d'assurer leur réinsertion dans la communauté. Parce que quand ils ont un métier, ils auront une occupation et ils ne seront plus tentés à être recrutés dans des mouvements armés.
Le renforcement des capacités avec les parlementaires sous la lutte contre les flux financiers illicites et la promotion des justices fiscales en RDC, c'est le thème d'un atelier qui a débuté hier jeudi, ici à Kinshasa. Cette formation de 2 jours est organisée par le réseau parlementaire panafricain sur les flux financiers illicites et fiscalité, en partenariat avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, à travers son bureau de liaison avec le Parlement. Par ailleurs, Georges Kalenda, secrétaire adjoint de la CENCO, a affirmé qu'il s'agit d'une question de gouvernance qui ne peut laisser la RDC indifférente. Il est au micro de Merveille Hassani.
Nous savons que les flux financiers illicites sont en gros des mouvements illégaux d'argent d'un pays à l'autre. Ces activités financières peuvent impliquer des revenus provenant d'activités illégales, d'évasion fiscale, d'exploitation illicite des ressources naturelles, de la traite des êtres humains, de la corruption et autres. C'est un phénomène mondial, mais la situation en Afrique est particulièrement grave. Le continent connaît un niveau élevé de sorties financières illicites, ce qui exacerbe les défis économiques et entrave les possibilités de développement et de réduction de la pauvreté. C'est une question de gouvernance qui ne peut nous laisser indifférents. Il y a besoin de porter les gouvernements à établir des normes rigoureuses pour lutter contre les flux financiers illicites et s'engager dans des actions plus concertées afin de combattre l'impact négatif de ce phénomène. Nous nous félicitons que cette initiative trouve opérationnalisation en République démocratique du Congo et à tous ses partenaires d'avoir initié cette rencontre formative de si grande importance pour l'avenir de notre pays.
Restons à la CENCO pour signaler en bref que le pape François a nommé Monseigneur José Bernard Licolo, évêque de Lissala, administrateur du diocèse de Molégbé dans la province de l'Équateur. Peu avant, le Saint-Père avait accepté la démission présentée par Monseigneur Dominique Boulamatari du gouvernement pastoral du diocèse de Molégbé. Dans la province du Maniema, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée hier jeudi par le gouverneur intérimaire à partir du marché central de Kindu. Cette opération de 3 jours, soit du 10 au 13 août, cible 321 058 enfants de 0 à 59 mois dans l'ensemble de la province du Maniema. La stratégie est de porte à porte, confirment les organisateurs. Florence Kizalunga, reportage.
Je lance les cartons rouges. Stop polio dans la province du Maniema.
Après les coups d'envoi donnés par le gouverneur intérimaire, le premier enfant a reçu de ces derniers ses 2 gouttes de vaccin. Le chef de division de la santé à l'intérim demande aux parents d'apprêter les enfants. Docteur Anakle Kianga.
Nul n'ignore que la maladie est tellement contagieuse, si bien qu'un enfant atteint de la polio peut transmettre la dite maladie entre 200 et 300 autres enfants. J'exhorte donc tous les parents d'accueillir les vaccinateurs qui passeront porte à porte pour administrer 2 gouttes de vaccin VPO à tout enfant de moins de 5 ans.
Les partenaires sollicitent l'implication de tous pour informer et mobiliser toutes les communautés pour un succès équitable de cette campagne. Ngo Bilong Christiane.
Pour réaliser une campagne de haute qualité, nous voudrons nous inviter tous à une mobilisation totale afin que tous les enfants âgés de moins de 5 ans soient vaccinés.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Réunis à Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé d'activer et de déployer la force en attente de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. L'organisation affirme toutefois qu'elle garde sur la table toutes les options pour la résolution pacifique de la crise. Au Sénégal, le divorce est acté entre la coalition de l'opposition Yewi Askan Oui et les partis Taxaou Sénégal de Khalifa Sall. Dans un communiqué lapidaire, la coalition dont fait partie le PASTEF d'Ousmane Sonko a dénoncé une violation de la charte, des actes de défiance et de trahison.
L'invité
de ce journal est le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Tommy Ntambwe Ushindi parle des projets réalisés depuis sa nomination à la tête du PDDRCS il y a de cela 2 années. Il évoque également la question des miliciens Wazalendo et de l'arrestation de Willy Adibou, coordonnateur provincial du PDDRCS Ituri. Tommy Ntambwe Ushindi s'entretient exclusivement avec Richard Junior Kamunga.
Tommy Tambwe Oshindi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous revenez d'une mission de travail au Nord Kivu. Et vous avez organisé un atelier des plans d'opération provinciaux dans les 5 provinces prioritaires. Dans quel contexte sécuritaire, avec la recrudescence des groupes armés nationaux du Oisaland?
Oui, c'est vrai, au Nord Kivu, comme dans le Sud Kivu, Ituri particulièrement, nous avons une nouveauté. Des groupes armés qui se sont mis ensemble et qui s'appellent aujourd'hui Oisaland. Nous avons eu le courage de les inviter pour qu'ils comprennent ce que nous faisons exactement à travers le plan opérationnel. Parce que chaque fois, les gens disent le PDDRCS ne connaît pas ce que ça fait, on ne connaît pas ce qu'il est en train de faire, il est méconnu. Alors, au cours de cet atelier, nous avons eu la grâce d'inviter toutes les couches. Inviter également cette catégorie de personnes qui s'appellent Oisalendo pour qu'eux aussi ils voient ce que nous faisons et le projet communautaire qu'ils sont retenus. Et nous étions heureux de voir qu'ils ont contribué d'une manière ou d'une autre en donnant des idées sur ce qui peut être le site de désarmement, là où on peut mettre la démobilisation, mais également les types de projets de réinsertion et de réintégration pour les communautés. Oisalendo, généralement, ils se disent qu'ils sont en train de combattre pour protéger le pays. Bon, comprenons, mais nous devons comprendre aussi qu'il y a des principes. Si quelqu'un voudrait être Oisalendo, il y a des règles. Et ces règles doivent être édictées par l'État. Jusqu'à ce jour, la loi ne connaît pas les milices. Et donc pour nous, notre mission, c'est de désarmer les groupes armés. Désarmer les milices, mais les démobiliser et les réinsérer dans la vie.
Bon, qu'est-ce qui est à la base de ces conflits coordonnateurs nationaux?
Vous savez, l'Est de la RDC a connu plusieurs vagues de guerres, mais également d'insécurité. S'il faut revenir sur la question des guerres à l'Est, la cause profonde des groupes armés et des guerres, c'est d'abord, il faut le reconnaître, c'est l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Si l'État est restauré, si les attributs régaliens d'un État sont restaurés, en tout cas, nous ne pouvons pas avoir les groupes armés. Les groupes armés sont une conséquence, premièrement, des conflits. Il y a plusieurs types de conflits. Je peux parler de, dans le travail que nous avons fait, nous avons découvert qu'il y avait 8 types de conflits.
Les coordonnateurs provinciaux du Nord, Kivu et Sud-Kivu, ont suspendu leur activité. Ils demandent la libération de leur collègue Willy Adib de l'Ituri qui est aux arrêts à Bounia pour détournement que vous, les coordonnateurs nationaux, vous n'avez jamais dénoncé publiquement.
Oui, d'abord il faut fixer l'opinion en disant que les deux coordonnateurs n'ont jamais suspendu leurs activités. Par contre, ils se sont insurgés sur la manière dont le coordonnateur avait été d'abord appréhendé par le service de l'ordre et la manière dont il a été arrêté et envoyé en prison. Bien entendu, en ma qualité de coordonnateur national du PDDRCS, je ne peux que déplorer l'incident qu'il y a eu et je pense qu'il y avait d'autres moyens administratifs par lesquels nous devions régler les différences s'il y a, par lesquels les questions qui sont liées aux finances doivent être réglés, doivent être suivis, c'est-à-dire il faut un contrôle. Ceux qui sont chargés de faire l'audit des finances publiques, de contrôler et de sanctionner, doivent être mis à contribution. Tel n'a pas été le cas. Et donc, je me dis qu'il peut y avoir d'autres raisons, mais à ma qualité, je suis en train de suivre. Je voudrais moi-même comprendre les mobiles et nous pensons que nous allons trouver des solutions par rapport à toute cette question de l'Ituri. Je saisis cette opportunité pour dire que d'abord la population doit se calmer par rapport à ce qui est arrivé. Nous sommes en train de suivre la situation.
Monsieur Tommy Tambwe Oshindi, merci.
Et notre invité, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Tommy Tambwe Oshindi, s'entretenait avec Richard Junior Kamunga. Fin de cette édition qui a été supervisée et coordonnée par Alain Irung, Pierre Diassinois, la mise en onde. Merci à vous de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.